Bon, bonsoir à vous tous. Comme vous l'entendez, je viens d'une autre contrée, hein, mon petit accent suisse. J'espère que je ne parlerai pas trop lentement pour vous si jamais vous me faites signe, puis j'essaierai d'accélérer la cadence. Alors, je vais peut-être d'abord raconter un petit peu mon parcours, comme ça vous comprendrez pourquoi je suis arrivé à écrire ce livre. Puis ensuite, n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment, parce que c'est toujours plus simple quand c'est interactif, hein, que quand on fait un monologue tout simple. Alors, je suis né en 1978, le 1er décembre, en Suisse, sur les rives du lac Léman, à Nyon, c'est entre Genève et Lausanne, vraiment, vraiment très proche de la frontière française. Mon père était vigneron, donc j'ai toujours baigné dans le vin. J'ai commencé à déguster quand même un peu plus tard. Mon père m'a toujours fait sentir des vins depuis le début. J'ai jamais trop apprécié, puis c'est vraiment quand j'ai commencé à faire mes études d'œnologue. Il commençait à y avoir un petit tilt à ce moment-là, que la dégustation en particulier dans l'œnologie m'a vraiment, vraiment passionné. Et puis le déclic s'est vraiment fait à la fin de mes études, comme n'importe quelle étude, hein, on doit faire un travail de diplôme. Celui-ci consistait à étudier les méthodologies des parfumeurs et voir qu'est-ce qu'on pouvait appliquer dans l'analyse sensorielle des vins. Ça m'a tellement plu que pour finir, je loupais pas mal de cours à la fin pour aller suivre des parfumeurs, essayer de comprendre leur métier. Puis il y en a un qui m'a bien pris sous son aile. Il est cité dans le livre au tout début, dans la préface. Il s'intéressait au vin. Je connaissais bien le vin. Il connaissait pas trop le vin. Puis je m'intéressais au parfum. Donc on avait les synergies parfaites qu'il fallait pour travailler ensemble. Si bien qu'à la fin de mes études, je suis retourné dans la parfumerie après avoir vinifié un petit peu. J'ai travaillé 7 ans avec lui. Pendant plusieurs années, c'était vraiment apprendre le métier d'œnologue, de parfumeur, pardon. C'est de l'entraînement tous les jours, tous les jours, tous les jours, sentir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, peser des formules, mais c'était lui qui les préparait. Puis petit à petit, j'ai participé à la création, à la modification des odeurs. Jusqu'à 7 ans après. Puis à la fin, la parfumerie, c'est un bon milieu qui m'a bien plu, mais il manquait quand même la convivialité qu'on a dans le vin, le rapport avec la nature notamment. Donc je suis revenu dans le monde du vin. Et puis, je passe mon temps à donner des formations aux professionnels du vin dans les pays viticoles, principalement en France et en Suisse, mais parfois un petit peu ailleurs. Aussi auprès des amateurs, je suis quelques vignerons pour des aspects vraiment olfactifs. C'est vraiment là-dessus que je me spécialise, quoi. Et puis l'année passée, en septembre, est sorti ce livre, donc la raison de votre présence ici, qui résume mes travaux dans le domaine de la parfumerie et de l'œnologie. Il se résume en plusieurs phases. Donc il y a tout d'abord une première introduction qui touche aux aspects de neurophysiologie olfactive, où on essaie de comprendre comment le nez fonctionne. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur Terre, c'est impossible de trouver deux personnes qui aient le même nez. Je ne sais pas si vous étiez déjà au courant de ça, mais la recherche va assez loin, puis depuis une dizaine d'années, on comprend la méthodologie du fonctionnement du nez. On s'y est beaucoup intéressé, surtout ces derniers temps, parce que le nez, c'est le seul système nerveux qui est en contact direct avec le système extérieur, avec l'extérieur, c'est le seul qui se régénère automatiquement. Tous les jours, on a des cellules nerveuses du nez qui se régénèrent. Donc, on imagine pouvoir utiliser cette fonction-là pour le traitement des paralysies, par exemple. Je reviens au livre. La première partie s'intéresse vraiment au fonctionnement de l'olfaction. Quand on est dans le ventre de notre mère, à peu près à la 15e semaine, on a tous nos récepteurs olfactifs qui se positionnent aléatoirement. Ils sont situés tout au sommet du nez, à l'intérieur, bien sûr. Comme on a environ 500 types de récepteurs différents, les animaux en ont jusqu'à 1000, mais nous, on en a à peu près 500. Ces 500 sont chacun multipliés par des milliers de références. Donc, se positionnant aléatoirement, on voit bien que les possibilités de combinaison sont vraiment gigantesques. Donc, même deux jumeaux sur Terre ne sentent pas de la même manière. On a des personnes qui se rapprochent d'un point de vue olfactif, qui ont des nez assez proches, pas des nez extérieurs, mais vraiment des nez au niveau fonctionnel. Mais Voilà, c'est ce qui rend la dégustation très compliquée, quoi, en particulier l'olfaction. Et puis ce livre donc, présente ces aspects-là et surtout, il montre des méthodologies pour essayer de passer par-dessus, d'essayer de comprendre les autres dégustateurs. Donc si on prend un exemple d'odeur qui est présentée à l'intérieur, allez, on va prendre une fleur, c'est toujours joli à présenter. Ici, on est sur le chèvrefeuille. On présente les molécules principales qui composent l'odeur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Sur la gauche de la page, on retrouve les molécules. Ce n'est pas du tout important d'apprendre ça par cœur. Il n'y a personne qui les maîtrise vraiment, à part des chimistes. Mais ces molécules-là sont les principaux composants odorants de l'odeur. Pour le chèvrefeuille, on a voilà, le terpinéol et puis salicylate d'exil. Ces deux molécules-là, on va les retrouver aussi dans d'autres odeurs, dans d'autres fruits, dans d'autres fleurs, parfois d'autres épices, mais même des animaux. En analysant ces molécules, c'est ce qui nous permet de dire que le chèvrefeuille ressemble à toutes celles qui sont citées en dessous. Par exemple, à la coriandre, à l'eucalyptus, au genièvre, au lilas, et j'en passe. Donc c'est la première fois qu'on montre de manière précise et surtout complète, il y a 152 odeurs qui sont présentées de cette manière-là. C'est la première fois que c'est présenté dans un livre. Jusqu'à présent, on s'en doutait un petit peu, mais maintenant c'est à disposition de tout le monde. Et puis en se basant là-dessus, on peut essayer de comprendre plus facilement les autres dégustateurs. En présence d'une molécule précise, par exemple l'alcool phényléthylique, qu'on utilise beaucoup en parfumerie, qui est le composant principal de la rose, qui est aussi le composant principal du litchi. Cette molécule, on la retrouve par exemple dans les gewürztraminer. Je suis désolé, je prends un exemple de cépage alsacien et non pas bordelais, mais c'est le premier qui me vient en tête. Donc, en sentant ce vin-là avec cette molécule-là, une personne parlera de litchi, l'autre de rose, et ils n'auront pas l'impression de dire la même chose, alors qu'en réalité, ils sentent exactement la même molécule. Donc là, on arrive à aller dans cette direction-là. Ensuite, on explique aussi d'où viennent les odeurs des vins, comment est-ce qu'elles se créent, comment est-ce qu'elles apparaissent dans le vin. Elles peuvent soit venir du raisin, soit venir des bactéries ou des levures qui travaillent le raisin, soit de l'élevage, de la vinification dans des fûts de chêne, etc., etc. On a des tableaux récapitulatifs à la fin qui présentent toutes les odeurs pour essayer de s'y retrouver un peu plus facilement. Mais surtout, je pense que c'est un livre qui est très utile aussi pour soi-même. Quand on déguste, il ne faut pas hésiter à le prendre, à essayer de suivre la classification des odeurs qui facilite vraiment beaucoup la description des vins pour essayer de retrouver les constituants qui se trouvent à l'intérieur, quoi.